Un projet de modernisation d'un existant, c'est une anomalie. Il n'y aurait pas des modernisations à faire si l'entreprise continuait d'avoir le bon niveau de management de ses logiciels, en fait. À chaque nouvelle révolution, mini-révolution technologique, on apprend à développer de nouvelles façons et on n'apprend pas à réparer du logiciel. Tu sais, les gens qui disent « moi, je m'intéresse à la technique pure ». Mais la technique pure n'existe pas. La technique pure, c'est pas fertile.
Bienvenue dans Bicause, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le voit bien et que vos clients aussi. Christophe Thibault, bonjour.
Bonjour Faisal.
Ça va bien ?
Ça va bien et toi ?
Eh bien, ça va super bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu à la conférence Socrate, peut-être qu'on en reparlera. Mais okay. Plaisir de te revoir.
Moi aussi.
Eh bien, on va peut-être se simplifier la vie. On va commencer par le commencement et on va apprendre à connaître Christophe Thibault. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire de toi-même ?
Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je travaille dans le développement logiciel depuis 87, 88.
Ok.
Je suis vieux.
Non. Mais tu as beaucoup de connaissances alors.
Ouais, j'ai fait du développement, de la chefferie de projet, de la direction de projet, du conseil. Il y a pas mal de conseils. Ce que j'ai fait de plus marquant, à mon avis, c'est du conseil du coaching agile en entrant chez Octo. J'ai découvert l'agile vers 2000. Et chez Octo, on a développé une offre de conseil et de coaching agile. Et puis ensuite, j'ai retransité, je ne sais pas si c'est le bon terme, vers le craft, parce que je me suis toujours intéressé aux pratiques techniques et notamment aux pratiques de prévention des défauts. Et une autre caractéristique, je dirais, de ma carrière, c'est que j'ai souvent, la plupart du temps, trempé dans des projets existants plutôt que dans des projets tout nouveaux. Alors, j'ai déjà accompagné des projets tout nouveaux, mais la plupart du temps, j'étais dans des projets existants. Et je m'intéresse... il y a un certain temps, je disais que je m'intéressais à la non-qualité. Disons que je m'intéressais négativement aux problèmes pour voir comment les prévenir dans la suite du projet ou dans un prochain projet. Voilà. Et puis, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les aspects systémiques, les aspects du système. Je considère que l'équipe qui développe un logiciel, elle fabrique un système, mais elle est elle-même un système dans l'entreprise. Et donc, elle a un écosystème. Et en fait, je m'y intéresse parce que c'est inévitable, en fait. On ne peut pas améliorer, je pense, la qualité de nos logiciels ou même la vitesse à laquelle on les fait sans s'intéresser au système dans lequel on les fait. Voilà. Je ne sais pas si ça résume
je
beaucoup.
Je crois que c'est un premier aperçu très, très bon sur qui est cette personne qui va... essayer de nous expliquer un peu la thématique de ce podcast et qui est comment aborder la question de la maintenance de l'existant. Alors, c'est vrai que dans l'IT software, on a tendance à regarder un peu plus l'aspect de création, de développement de nouvelles features.
Ouais.
Mais maintenir l'existant, c'est un enjeu vital. Et tu as quand même le profil pour... qu'on explore ensemble cette dimension-là de tous les projets. Il me semble juste que de commencer peut-être par une tentative de définition. Lorsqu'on parle de maintenir l'existant, qu'est-ce qu'on essaye de dire ? C'est quoi l'existant ? Et est-ce qu'on peut s'approcher ou faire une première approximation, une première définition de ce qu'est la maintenance ?
Ouais. En fait, c'est une vieille séparation, en fait. Hein. Ça tient avec la définition du développement, en fait. Depuis que je travaille dans ce métier, il y a toujours eu une séparation entre la maintenance et le développement, en fait. Et je pense qu'il y a une partie de cette séparation a été structurée par la façon dont les entreprises comptabilisaient les investissements les dépenses, notamment les dépenses en ressources humaines, sur une partie qui consiste à dire on a un nouveau projet, voilà comment on va le comptabiliser. Alors, je ne suis pas un expert en compta, Et on va le comptabiliser d'une certaine manière, et quand on sera en maintenance sur le logiciel qui tournera donc en production, on aura une autre façon de le comptabiliser, on aura une autre façon d'investir dessus. Et je pense que la séparation vient de là, et ensuite elle s'est ancrée dans les différents métiers. Il y a eu un temps où les gens qui participaient à la maintenance, ils faisaient un peu plus que du support ou que de l'analyse d'incidents ou de la qualification. Ils étaient capables aussi de modifier le système. Mais il y a toujours eu un fossé. Parfois, le fossé est bien réel dans l'entreprise. Parfois, il est simplement culturel ou psychologique. C'est-à-dire que les développeurs, on leur demande de faire et le développement et la maintenance de ce qui est déjà en production. Et ils le font avec un appétit, on va dire, différent. Mmh. Donc maintenir l'existence, c'est faire en sorte que ce sur quoi on a investi continue à contribuer à produire de la valeur dans l'entreprise.
Et c'est assez souvent le cas.
C'est la partie importante. Mmh. C'est la partie importante, c'est-à-dire que un logiciel, ça tourne, évidemment. Et donc ça tourne en production. Alors c'est drôle parce qu'on pourrait dire bah oui mais ça s'use pas, un logiciel c'est inusable, c'est digital. C'est pas le logiciel qui s'use, c'est tout le reste, c'est l'environnement dans lequel il a été fait.
C'est le concept de la valeur derrière le logiciel, c'est-à-dire.
C'est ça, c'est-à-dire ouais. je fais un logiciel une version 1 au 1er janvier, je sais pas moi, 95. Et au 1er janvier 2000, ma version 1, elle a 5 ans. Le logiciel, il n'a pas bougé d'un iota, hein, il n'y a pas eu de perte. Enfin, c'est devenu très, très fiable, le matériel informatique. Mais tout le reste autour a changé, évidemment. Le métier a changé, l'écosystème, le métier de l'entreprise a changé. Les technologies ont évolué aussi. Et donc, maintenir l'existence, ça sonne souvent comme s'occuper d'un vieux truc. Si on n'y réfléchit pas, personne n'a envie de maintenir l'existant parce qu'il faut s'occuper d'un vieux truc. En général, il n'y a pas beaucoup de budget. On a divisé le budget entre plusieurs applications. Donc, on se retrouve sur des tâches toutes petites. Et souvent, on n'a pas de quoi investir. Donc, on va faire sur du code qui est souvent, bien souvent, déjà pas terrible. On va rajouter des choses qui sont des expédients, mais qui sont... voilà. J'ai interviewé une personne récemment chez un client qui me disait « Oui, non, mais ici, on met des pansements sur des pansements sur des pansements. » Donc voilà, il y a cet aspect-là. Alors, cette personne-là, elle fait aussi du développement de nouvelles fonctionnalités, mais elle le fait dans un système qui est inexistant. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien voir arriver, c'est une distinction un peu moins ferme et un peu moins rigide entre le monde du logiciel existant, qui pour les jeunes ingés, faut fuir à tout prix, et le monde du développement avec son innovation, ses nouvelles technologies, etc.
Ouais. Ça, voilà. C'est vrai que j'avoue que de mon point de vue de développeur, il y a clairement cette tendance chez les développeurs d'essayer d'attraper la dernière technologie.
Ouais.
Et ça émane de cette conviction peut-être que l'existant, maintenant, c'est passé. Et ça peut être une technologie de 2017. C'est pas très loin, mais les gens veulent toujours être sur le nec plus ultra, le edge.
Absolument, oui. Ouais, tout à fait.
Et du côté des entreprises aussi, il y a quand même cette idée que on veut créer de la nouvelle valeur.
Ouais, et je pense que c'est intéressant parce que... Alors, j'ai beaucoup de copains qui s'intéressent à des vieux trucs. Y compris les vieux programmes de leurs clients. Mmh. Alors, c'est pas que les programmes, surtout s'ils sont pas, enfin, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, c'est pas très bien structuré, c'est pas facile à maintenir, des fois il n'y a pas de test, c'est pas que ça les passionne pour cette raison-là, mais c'est des gens qui ont envie d'approfondir des connaissances sur un sujet. Et en fait, l'alternative, c'est un petit peu, si on y réfléchit, l'alternative, c'est un petit peu de changer de technologie, allez, on va dire tous les deux ans, si on est optimiste. Il y a ce côté révolution permanente de la nouvelle technologie qui peut, j'imagine, au fur et à mesure que la maturité vient chez les développeurs, qui peut donner envie d'approfondir des choses. Mais il y a un côté... effectivement, psychologiquement, maintenir l'existence est moins intéressant parce qu'on n'est plus dans le on n'est plus tout à fait dans le problem solving, ou alors on résout une différente catégorie de problèmes, et parfois des problèmes bien plus complexes en fait. On n'est plus dans l'innovation pure, donc si on est venu à l'informatique par goût de l'innovation, des aspects, je sais pas moi, des aspects scientifiques ou mathématiques, ou bien des aspects ingénierie, faire des nouvelles solutions, maintenir l'existence, ça va plus être tout à fait ça. En revanche, si on s'intéresse à l'interaction de ce système de l'informatique avec le métier dans la vie d'une entreprise, maintenir l'existence est passionnant.
Si je peux peut-être essayer un mot, tenter un mot, ce serait peut-être un peu de l'archéologie et de l'anthropologie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, on porte son attention sur ce qui est, en essayant de comprendre tel qu'il est son jugement. Et puis bon, l'objectif quand même, c'est de pouvoir y apporter des réponses, parce qu'il y a peut-être un bug qui se cache quelque part, il y a peut-être un aspect d'un système que les gens ne comprennent plus et qui est essentiel à une modification, une évolution. Il y a un problème de toutes sortes. L'idée ne me vient pas comme ça. Effectivement, tu m'avais recommandé un livre, donc Kill It With Fire.
Ouais, Kill It With Fire de Marianne Bellotti. Ouais.
Bellotti, en fait, qui est, je crois, anthropologue de base.
Elle a sa formation. Elle a une formation en anthropologie, mais aussi en informatique. Donc, elle a travaillé dans les deux secteurs. Alors, c'est intéressant, dans ta question, tu mentionnais... l'archéologie, l'anthropologie. Alors, métaphoriquement, oui, l'archéologie, parce qu'on va dans des trucs anciens. Enfin, on a dans le code existant des entreprises, on a des pierres de Rosette, quoi, quelquefois. Enfin, si on peut avoir juste le source, et si on a juste le source d'un programme, alors c'est intéressant parce que la plupart des entreprises se figurent que si elles ont le source d'un programme qui tourne en production, c'est bon. Elles peuvent le moderniser comme elles veulent, elles peuvent le refondre. C'est une curieuse analogie là aussi, parce que refondre, si je prends, je sais pas moi, l'ensemble des statues en bronze, toute ma vaisselle, et que je la refonds pour faire des canons, j'obtiens une masse informe si je refonds. C'est la traduction française de rewrite, en fait. C'est pas exactement la même chose. Marianne Bellotti, elle a cette approche-là, elle s'intéresse au système humain autant qu'au système... au système technologique, informatique, le code pur. Et donc, elle a, dans ce livre, Kill It With Fire, qui est la recommandation qu'on fait quand on est désespéré devant un existant, hein. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire, c'est de le détruire par le feu.
L'oblitérer.
C'est ça, oui. Parce que le manager, lui, ne veut pas le décommissionner, mais nous, on aimerait bien l'oblitérer, en effet. Elle, ce qui l'intéresse, c'est le système dans le système. Ce système technologique, qui est fait de code, d'infrastructures, d'architecture, de choix, de design, qui sont effectivement passés, d'où le côté archéologie, ça a été fait dans une structure, dans un autre système, qui est le système humain, qui est l'entreprise dans laquelle ce logiciel a été fait. Et c'est pour ça qu'il va falloir approcher les choses avec une vision un petit peu sociologique. Je dirais pas au sens de la discipline sociologique, évidemment, mais au sens où comprendre ce qui est possible pour un artefact technique tel qu'un logiciel complexe dans une entreprise, ça implique de comprendre à minima quelles étaient les relations des acteurs qui ont fait ce système, comment ils se sont entendus, c'était quoi leur projet, qu'est-ce qui reste de ce projet. Enfin, il y a des éléments complètement, effectivement, de l'ordre de la sociologie. Et alors, c'est intéressant parce que dans ta question, tu mentionnais l'archéologie et la sociologie, mais tu n'as pas seulement parlé de compétences, tu as parlé aussi d'une disposition. Tu as dit qu'il faut un certain détachement. Et donc là, on est moins dans la compétence, enfin, on pourrait appeler ça une soft skill ou je sais pas, mais on est plus dans la disposition, c'est-à-dire comment je dois me tenir, quelle va être ma posture, comme disent les anglo-saxons, mon attitude générale par rapport à des problématiques d'existant. Donc on les mentionnait un peu tout à l'heure, l'existant, il n'y a pas beaucoup de budget, ça ne marche pas très bien, et il y a des gens qui ont besoin du système en production, et le système en production, il ne marche plus très bien, il faut le corriger vite. Et c'est un problème. Donc on arrive, pansement sur pansement, c'est ingrat. Donc il faut cultiver un certain détachement. Je me souviens de certains moments dans ma carrière où j'avais un portefeuille d'applications en maintenance qui était dans un état d'ingénierie, je dirais, à peu près qu'à l'émitteur. Enfin, disons, les gens disaient à propos, y compris les gens qui l'avaient développé, disaient « ça a au moins le mérite d'exister ». Et je répondais, si c'est seul mérite que ça, on a un problème. J'aimerais bien que ça ait d'autres mérites. Ouais. Et donc, j'avais à un moment certaines fins de journée ou début de soirée philosophique où je me disais, après tout, il y a des octets qui changent de valeur et oui. L'information qui se déplace et tout ça, c'est bien. C'est à ce point qu'un logiciel existant, complexe, mal structuré, enfin, qui a de la dette technique, comme on dit, un legacy, peut être désarmant de complexité. Et c'est de la complexité, c'est pas la complexité qu'on aime, c'est la complexité accidentelle. Oui. C'est compliqué parce que... Mais c'est pas compliqué parce que c'est complexe, parce que l'univers est fascinant et oui. magique. C'est parce que c'est tordu. Et c'est tordu parce que les acteurs qui ont fait ce logiciel, ils avaient un projet dont toute la cohérence est passée dans le logiciel. Et la cohérence, elle n'est plus là. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a certains logiciels qui existent depuis un certain temps. Et au début, les analystes, comme on les appelait avant, les concepteurs, les architectes, les développeurs, enfin tous ceux qui conçoivent le système en collaboration avec le métier, prennent leur savoir métier de ces acteurs-là. Ils leur demandent quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et en général... Enfin, le plus souvent, ils calquent le système informatique sur ce que leur dit le métier. Ce n'est pas toujours le cas, hein, parce que Domain Driven Development montre que les informaticiens sont aptes à créer des nouveaux concepts métiers, en fait. Puisque la technologie arrive avec des innovations, elle apporte des concepts métiers, et je pense que les frontières sont très poreuses entre le métier et la tech. Mais c'est un autre sujet. Et donc, au début, ils s'inspirent de ce que leur dit le métier, de ce que leur dicte le métier sur ce que devrait faire cette partie du système qui tient dans un ordinateur. Et ensuite, 5 ans ont passé, et puis on dit d'autres informaticiens viennent pour maintenir l'existant, et ils demandent aux utilisateurs ou à leurs managers, mais c'est quoi les règles, c'est quoi la règle métier ? Je ne sais pas, regarde dans le programme. Donc maintenant, le programme fait partie de on va dire, du discours de l'entreprise au sens métier, c'est-à-dire qu'il y a une partie du métier qui tient grâce au programme, qui est dans le programme.
Une forme de documentation sur le fonctionnel.
C'est ça, le fonctionnel, il est dans le programme. Ça, c'est garanti. Il n'est pas parfait, il n'est pas aussi pur que le fonctionnel tel qu'on le mettrait sur un tableau blanc ou dans une salle de C-level quand on parle d'une stratégie. Et il n'est pas aussi propre que ça, mais il est là et c'est lui qui fait foi, en un sens. Et donc, en fait, c'est comme si on perdait le... Il nous restait la lettre, enfin le code, la notation, le code... le code Java, le code PHP, le code assembleur, le code COBOL, whatever. Mais il ne nous reste plus la lettre. La lettre, l'esprit qui était derrière, qui insufflait, qui mettait le système en action au début du développement, il est parti. Il est parti parce que...
C'est-à-dire qu'il y avait un glissement au niveau de l'aspect humain, c'est-à-dire l'aspect organisation ou équipe qui détenait cette connaissance-là. Le code est resté tracé quand même sur marbre.
Il est resté sur du marbre, du silicone plutôt, mais il est là. À partir du moment où il y a une prod qui fait son boulot ou un cloud, un acteur cloud qui fait son boulot, il ne va pas disparaître. C'était intéressant l'expression qui a commencé à être populaire dans les années 90. On disait, pour expliquer un peu la dette technique, on disait le code pourri, code rot. Mais le code ne peut pas pourrir, hein. c'est pas du tout organique. C'est du signe pur, c'est pas organique. C'est tout le reste qui pourrit, en fait. Mais c'est peut-être que le focus, et je pense qu'en fait, c'est intéressant, que le focus est trop sur le code. C'est pas le code qui se détériore. C'est l'ensemble du système dans lequel on a fait le code, les contraintes, les objectifs, le contexte qui faisait que ce design était optimal à un moment donné. Ces contraintes et objectifs ont changé pour des tas de raisons qui tiennent à l'histoire, la sociologie, la culture, l'entreprise... la vie de l'écosystème, ce qui s'est passé dans l'économie, etc., etc., qui font que le système tel qu'il a été fixé ne marche plus tout à fait. Et donc maintenir l'existant, pour moi, c'est passionnant parce que c'est toujours être sur ce delta entre un système tel qu'on l'avait conçu, pas très bien, pas parfaitement, c'est sûr, des fois très très mal, et ce qu'il est maintenant et ce qu'on le charge de le faire. Et là, déjà, on pourrait se dire, bah oui, sur un existant, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a déjà un tas de choix possibles, en fait. Par exemple, il y a le choix de dire, moi j'ai entendu ça des années, que je m'occupais de logiciels existants. Je disais à mon responsable de groupe, s'il te plaît, donne-nous 2 mois de budget off, enfin, en dehors des évolutions, pour faire de ce que j'appelais à l'époque du préventif, de la maintenance préventive, c'est-à-dire du refactoring, on appellerait ça maintenant du refactoring, pour nettoyer les structures de base de données, elles ne sont pas en forme normale, c'est horrible, enfin, tu vois, tous ces bugs qu'on a, etc. Et donc, sa réponse rituelle, c'était, mais on le décommissionne à la fin de l'année, Christophe, c'est pas la peine de... C'est pas la peine d'investir. Et là, on avait un provisoire qui dure, parce qu'en fait, la promesse de décommissionner un truc et de le remplacer, enfin, pour ceux qui ont déjà vécu des refontes et qui les ont vus s'empiler, c'est-à-dire le nouveau logiciel s'empile à côté du logiciel existant et les deux coexistent pendant 5 à 10 ans, je pense que ça s'est déjà vu.
Ouais.
Donc en fait, quand on est dans la maintenance de l'existant, on est en plein dans la vie des projets. Et ma tendance, disons, ma préférence perso, mon point de vue provocateur, c'est de dire l'innovation, les trucs qui brillent, là, tout ça, c'est pas la vraie vie des projets. La vraie vie des projets, c'est ce vieux Lego tout pourri là, qui clipse plus, qui marche pas, qui marche pas bien, et qu'il faut gérer. Et donc c'est un problème, parce qu'il y a un décalage entre la carrière telle qu'elle est promise et la réalité, en fait.
Je vais peut-être essayer de traduire un peu dans mes mots une partie de ce que tu as très bien expliqué, c'est que, alors il faut déjà abandonner cette idée que maintenir de l'existant, c'est une pure affaire de code.
Ah oui, c'est clair. Oui.
Parce que ça m'a pris un peu de temps pour le comprendre. Donc on exprime cette idée très clairement que c'est pas que ça. Il y a beaucoup d'autres éléments qui sont... Alors, je ne sais pas si méta, c'est le terme, mais il y a un élément sociologique humain, un élément d'organisation éminemment présent et toujours présent. Okay. Déjà, c'est un changement de perspective. Et une fois qu'on comprend ça, on comprend que l'investissement, ce n'est pas juste du refactoring pur du code, c'est aussi chercher des collaborateurs qui veulent rentrer dans ce jeu de maintenance.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et les collaborateurs, ils sont à plusieurs niveaux. Donc, ça peut déjà être les développeurs qui ne sont pas spécialement fans, en fait, de ce genre de pratique, d'entreprise, d'exercice. C'est aussi le manager, typiquement, etc. Donc, ça, c'est un point crucial.
À mon sens,
je ne pense pas qu'il est parfaitement compris dans le marché moderne. C'est peut-être...
En fait, dans le logiciel, ce soit du développement greenfield ou brownfield, peu importe, il n'y a pas de... Tu ne peux pas avoir une activité significative dans le logiciel sans avoir une interaction qui doit être la plus juste possible et qui est souvent pas très juste, au sens de pas très juste, des instruments jouent ensemble mais c'est pas très juste, de ces trois acteurs qui sont la tech, le business et le management. Alors moi, quand j'ai commencé à travailler, on parlait du métier et de la tech, enfin on parlait de la maîtrise d'œuvre, la tech et la maîtrise d'ouvrage, donc qui représentait les choix métiers, et il y a toujours eu ce grand fossé entre le métier et la tech. Et aujourd'hui, on parle aussi la tech, le métier, et le manager, il est fantomatique là-dedans. En fait, non, il y a un troisième acteur, c'est un système à trois piliers, en fait. Et donc, il faut s'intéresser alors, à des aspects qu'on a appelés sociologiques, mais qui sont des aspects... qui tiennent de la culture, qui tiennent de la capacité à travailler ensemble, de la capacité à prendre des décisions ensemble, à trouver un consensus avec des gens, y compris avec des gens qui ne sont pas du tout dans la même logique qu'un développeur qui se passionne de la technique, qui aimerait faire du purement technique, mais il est venu dans une entreprise qui a un métier, et en fait, s'il faisait du purement technique, il s'ennuierait. Parce que finalement, ce qui l'intéresse aussi par la bande, c'est d'apprendre à propos du métier. C'est de mettre en œuvre. Et mettre en œuvre, c'est mettre au service d'un métier. Et donc, ça passe par cette façon de travailler ensemble un système que j'appelle... Enfin, j'ai un terme minimal pour ça, parce que je ne veux pas donner des termes trop techniques qui font référence à des techniques ou à des patterns particuliers. Quand trois acteurs doivent concevoir ensemble un système... qui part d'un système d'idées, hein. ils ont des idées ensemble, ils ont un projet, ça pourrait s'appeler une start-up, mais ça pourrait aussi s'appeler on est un constructeur automobile en 1975 et on va automatiser notre facturation. C'est la même chose, c'est un système d'idées à un moment donné qui se nourrit des possibilités de la technologie, de l'offre technologique, qui se nourrit des ambitions du métier dans l'entreprise, c'est-à-dire marquer un coup, prendre la première place sur le marché, produire de la valeur, révolutionner un marché, devenir une plateforme, peu importe, et qui s'alimente aussi d'un rôle super important qui est le management. Et donc, ces trois-là, ils doivent travailler ensemble à concevoir un système qui va finir, entre autres, par du code dans des ordinateurs, mais aussi tout ce qui va autour. Le code dans les ordinateurs ne suffit pas. Et donc, quand on travaille au système en disant bah, « moi, je vais m'occuper du code et de vos tickets de maintenance et d'évolution sur ce code qui ne marche pas très bien, qui a des incidents, etc. » Je vais devoir m'occuper aussi, je vais participer à cette conversation. Et cette conversation, voilà, moi j'ai trouvé ce terme de conversation. Donc imagine qu'on fasse un projet, mais on n'a pas d'ordinateur, parce qu'on est encore à une époque où c'est très cher et on est très pauvre. Et donc on a une conversation à propos du design d'un système, on saurait presque mathématiquement comment le designer, mais on ne pourrait jamais l'implémenter, on ne pourrait jamais donc bénéficier de son exécution sur une machine, de la transformation, de la création de valeur. Mais on pourrait essayer de maintenir une conversation à propos de ce système. Évidemment, si on y réfléchit, à moins qu'on trouve un système de documentation, de notation, de référencement qui mette sur le papier, puisque c'est là que ça va se passer si ça ne se passe pas dans un ordinateur, ça va être assez structurant. En fait, c'est ce qui se passe avec l'ordinateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les interactions de ces trois acteurs, métier, management et tech, il y a un petit gars, une petite équipe, qui s'occupe de transformer ça en notation et d'aller le mettre dans un ordinateur. Mmh. Et le miracle s'accomplit. C'est ce qu'on appelle la transformation digitale, c'est la numérisation du monde. Et heureusement que c'est là, parce que sinon, cette conversation, le contenu de cette conversation, il aurait du mal à rester en place si on y pense. Par exemple, on a découvert il y a quelques années que c'était utile pour une équipe de faire un ADR, c'est-à-dire une trace, un Architecture Decision Record, une trace de toutes les décisions structurantes qui ont été faites dans le projet et pourquoi, et quelles étaient les alternatives et pourquoi on a choisi cette solution. Pourquoi c'est utile de faire ça ? Pour retrouver la clé du mystère de l'énigme, en fait, pour voir pourquoi ça a été fait comme ça. Pour mieux comprendre, une fois qu'on n'a plus que l'artefact code, quel était l'esprit,
l'intention.
Quel était le contenu de la conversation, en fait.
Ouais.
Et donc, en fait, j'en suis arrivé à me dire, un système logiciel en production, c'est un truc sur lequel, dans l'entreprise, en ce moment même, puisqu'il est en production, il y a des conversations. Mais puisqu'il est déjà en production et que, pour certains, enfin, même peut-être objectivement, c'est de l'histoire ancienne, puisqu'il a été développé, on a juste les conversations qu'il faut pour capturer la valeur que produit le système. Et on n'a pas de souci de le maintenir, ou alors on fait semblant, ou alors on ignore que l'écosystème, lui, change et que le système va devoir changer.
C'est-à-dire, concrètement, quand on essaie de faire le moins de conversations possibles sur ce système-là, on fait juste le minimum qu'il faut pour que ça tourne.
Ouais, parce que...
Et on essaie d'éviter le reste du temps la conversation.
C'est ça, parce qu'en fait, il a coûté très cher. Il a coûté très cher. Peut-être qu'on a fait ce projet et qu'on n'aurait pas dû en faire un autre. Peut-être qu'on a gâché beaucoup d'argent déjà. Peut-être qu'il continue à coûter cher. Mais en tout cas, ce que je sais d'un système qu'on appelle un code legacy, c'est donc un système en production, c'est un système dans lequel métier, tech et management ont une conversation minimale. Un système en développement, c'est un système dans lequel métier, tech et management ont beaucoup de conversations, y compris des conversations redondantes, mais elles sont redondantes pour des raisons de durée, de résilience du projet. Un système existant, c'est un projet sur lequel il doit y avoir des conversations, et un projet de code legacy, c'est un système qui tourne encore en production, puis sur lequel la conversation est rare. Donc c'est comme une sécheresse, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus... c'est plus hydraté. Il n'y a plus le développeur qui est là, il assure quelques petits, on va appeler ça des patchs. Le terme technique n'est pas tout à fait exact, parce qu'un patch, en général, c'était binaire au départ. Il fait des patchs de code pour satisfaire des clients. C'est typique de la vie d'un progiciel, par exemple. Pour satisfaire des clients qui ont des demandes, il met des adaptations à la marge sur la frange du système sans en réviser le cœur. Et il dit, ouais, bah, il dit, on fait pansement sur pansement. Et donc, il est dans une, lui, il est dans une sécheresse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les conversations qu'il faut sur l'investissement, parce que quelqu'un dit, bah, un jour, on va refondre, on va faire la V2, on va faire la New Generation, ce sera dans 2 ans ou dans 5 ans. Et donc, en fait, quand on est à la maintenance d'un système, c'est ingrat parce qu'on est, on est vraiment au cœur de tout ce qui est en déshérence, tout ce qui souffre de problèmes, d'organisation, de moyens, etc. Alors, ça peut être l'inverse, il y aura parfois des exceptions où un système est en production et il y a des budgets remarquables et des gens qui perdent leur temps avec des technologies qu'ils auraient pas, qui n'ont pas lieu d'être, etc. Enfin, on voit de tout, bien sûr. Moi, je suis en train de parler des projets pauvres, entre guillemets, parce que c'est la difficulté. Pourquoi ? Parce qu'on va aborder forcément ce problème-là, de dire, bah, Christophe, tu dis maintenir l'existence, c'est chouette, c'est intéressant. Non, c'est vachement ingrat et c'est... bah, c'est moins bien payé. Un programmeur COBOL, c'est moins bien payé qu'un programmeur Rust ou qu'un programmeur TypeScript.
Il faut se poser la question pourquoi, d'ailleurs. Toujours est-il que ce travail est nécessaire.
Il est nécessaire.
Il est inévitable. Enfin, bon, beaucoup de fois, en tout cas.
Il est inévitable. Et il faut se réconcilier avec cette nécessité.
Il faut oser le regarder dans les yeux. Et c'est ça. On ne va plus garder le fossé qu'on a mentionné au départ entre ce qui a émané d'un souci de comptabilité d'une vieille entreprise qui voulait quand même... dimensionner différemment un nouveau projet et l'ancien. Et on veut quand même restaurer un peu plus d'attention réelle au sens, j'allais dire affectif, mais énergie, attention, information, conversation qui se porte sur l'existant.
Ouais.
Donc il faut un peu se décomplexer de ce côté-là.
Alors, ouais, c'est ça, en fait. Il faut le voir d'une autre manière. Je ne saurais pas exactement préciser laquelle, et évidemment, elle ne marcherait pas pour tous les contextes. Mais il faut le voir d'une autre manière que le seul angle technologique. C'est-à-dire, l'angle superficiel, c'est se dire, t'es encore à PHP, vous n'êtes même pas passé à Symfony, mais c'est délirant, quoi. Voilà, c'est ni fait ni à faire. Vous auriez dû migrer depuis... Et d'ailleurs, Marine Bellotti le dit aussi vers la fin de ce livre. Elle dit, il n'y aurait pas des modernisations à faire si l'entreprise continuait d'avoir le bon niveau de management de ses logiciels, en fait. Un projet de modernisation d'un existant, c'est une anomalie. C'est comme, par analogie, c'est comme une intervention chirurgicale est devenue nécessaire, alors qu'en faisant de la prévention et en s'occupant de sa santé, on aurait pu vivre plus longtemps sans avoir un jour le besoin de cette...
Elle part d'une mauvaise conception qui est, grâce à un virage technologique... Dans un changement technologique, on peut réparer ce qui est réparable par un changement d'optique, de management ou d'équipe ou d'aspect humain, sociologique. C'est-à-dire qu'au fond, on ne va peut-être pas toucher le problème. Et si on réussit à faire un changement de technologie et qu'on réussit le projet ou la maintenance, c'est qu'on est peut-être plus chanceux. C'est-à-dire qu'on a juste, en faisant ça, réengagé la dynamique de la conversation et il se trouvait que ce n'est pas forcément... Le virage technologique, c'est juste le fait qu'on a reparlé du sujet et que du coup ça commence à décider.
En fait, c'est intéressant parce qu'elle dit, elle raconte cette anecdote dans son livre. Elle s'est occupée de systèmes, elle s'est autant occupée de vieux systèmes gouvernementaux aux États-Unis.
Ouais, t'as pas mal bossé pour le.
Et aussi de start-up. Et dans une start-up démarrée il y a 6 mois, elle intervient à la demande du manager, enfin du créateur de cette start-up, et elle lui dit, c'est rigolo, parce qu'en fait, c'est la première fois que je vois un système legacy qui a 6 mois, en fait. Et il lui dit, c'est bien fait, ça t'apprendra, fallait arriver il y a 6 mois, en fait. c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire du legacy, on parle de vieux systèmes, on va parler, je sais pas moi, de C, de COBOL, ou des trucs qui font peur aux gens, mais en fait, on peut avoir un legacy, enfin, j'ai eu un client qui refonde un système qui avait juste 3 ans, hein. 3 ans, c'est un bébé. Ben non, fallait le refondre. Alors c'est intéressant de se poser les questions, mais là on rentre vite dans des dimensions politiques, puisqu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Mais quels ont été les choix qui font que 3 ans après, c'est l'impasse, faut changer la technologie, ou faut changer la méthodologie, ou faut changer quelque chose. Alors quand on parle de modernisation, on parle pas nécessairement d'une transformation brutale, d'une bascule. On peut progressivement améliorer l'état d'un système. Mais ce qui compte, ce qui va compter, alors, pour, on a parlé beaucoup de la maintenance du point de vue des devs. Ça serait quoi ma motivation à rentrer dans un poste où je ferais plutôt de la maintenance de l'existant que du développement Greenfield? C'est compliqué. C'est déjà compliqué en termes de motivation. Comme tu dis, il y a peut-être un détachement à cultiver, puis aussi un goût pour les vieux trucs auxquels on s'intéresse et comment ils fonctionnaient. Donc, une espèce de curiosité qui va au-delà de... Alors, je vais être caricatural, de faire marcher des nouvelles technologies, ce qui est fascinant aussi, hein, je veux dire, ça, on ne va pas l'enlever. Après, il y a deux autres acteurs, ils ont aussi un mot à dire sur maintenir l'existant. Ben, le métier, lui, il va dire, c'est la plaie, quoi. Parce qu'on a dépensé, je ne sais pas, 3 millions au développement, et puis là, on nous dit, faut changer ça, etc. On s'est encore fait rouler dans la farine, quoi. Donc là, on est vraiment dans les problèmes, les patterns de communication entre la tech et le métier. Vous ne nous aviez pas dit, etc., etc., enfin, les coûts cachés, etc. Et du point de vue du management, c'est super difficile. J'ai rencontré plus souvent qu'à mon tour des managers qui me demandaient, mais dites-moi comment attirer des développeurs. Je disais, oui, mais tu as 12 versions de retard en Java, donc les ingés que tu veux ou voudrais voir arriver chez toi, ils vont pas venir tout de suite. Il va falloir un autre enjeu peut-être que d'utiliser des technologies qui sont up to date, tu vois. Et donc il y a ce triple aspect en fait. Il y a pour le métier quelle mesure financière investir dans l'existant. C'est quoi le coût d'un existant? Comment on améliore ça? Pour la tech, comment je peux m'y intéresser? Et pour le management, comment je fais pour que, en fait, pour faire mon boulot de manager, c'est-à-dire faire qu'un processus cohérent survive à la première livraison, quoi. Le métier du manager, c'est en fait, j'ai tendance à dire de manière provocante que le métier du manager, c'est la maintenance. La vocation de la tech, c'est d'apprendre. Un développeur, il dit « Ah, j'apprends plus, je démissionne, je m'en vais, je change. » La vocation du métier, c'est de créer de la valeur ou de servir une cause. Hein. Ce n'est pas forcément de la valeur financière. De créer de la valeur, de transformer, de réaliser quelque chose. Ça, c'est la vocation du métier. Et la vocation du management, je grossis énormément le trait parce qu'on a une fois qu'on a posé ces grandes vocations, on a toutes les variations possibles dans les vocations des gens. Mais la vocation du manager, c'est de faire en sorte que après la première partie, après la victoire de la première partie, il y ait une partie 2, une partie 3, et que les matchs continuent en dépit du fait qu'il y a des gens qui vont s'en aller, il y a des gens qui vont arriver, il y a des tas de choses qui vont se passer. Mmh. Et donc, il faut ces trois aspects-là, en fait. Quelle valeur on veut créer, c'est quoi le projet, quelle technologie et comment on gère cette technologie, comment on la maintient, et comment on fait l'ensemble, en fait. Et c'est rigolo parce que les tech leads, les développeurs qui font du craft, mais qui s'intéressent un peu aussi au coaching, les coachs agiles, ils parlent de poste glue, c'est-à-dire la colle. C'est-à-dire faire la colle, c'est un peu, moi je ne suis pas un 100% techos, je fais aussi du glue, c'est-à-dire j'aide les gens à travailler ensemble. Typiquement le travail du manager, ça. Et c'est intéressant parce que comme on est dans une industrie du service, le manager c'est le grand absent du système en fait. Le manager, il est vu comme... J'ai eu une conversation très intéressante dans une session à Socrates Rennes là-dessus, où j'étais en but avec des gens, mais on était en fight, carrément. je disais, le coach agile, si le coach Scrum, le Scrum Master qui se maintient en poste pendant 5 ans auprès d'une équipe, est en train de remplacer le manager. Les managers devraient être des coachs, ils devraient être à l'écoute des gens avec qui ils travaillent et les aider à faire en sorte que ça fonctionne ensemble. C'est typiquement le travail du manager. Et les gens me faisaient non de la tête comme ça, mais ils étaient médusés. Ils disaient, mais non, le rôle du manager, c'est pas ça du tout. Je me demande, quel est le rôle du manager? Le rôle du manager, c'est de faire la compta des jours passés et puis d'avoir la big picture. Je pense qu'il n'y avait pas de manager dans la salle.
Je dois quand même confesser que c'est vrai que tu es en train de me faire découvrir une idée là, parce que c'est vrai que dans ma tête aussi, le manager, c'est quand même... quelqu'un qui pérennise la structure. Et il est...
C'est ça, oui, tout à fait.
Et là, tu viens de me faire découvrir que c'est possiblement celui qui doit... Enfin, il doit déjà s'impliquer quand même à l'affaire de ce système ou de ce logiciel. Et puis, d'être celui qui essaye quand même de le garder en vie. et de faire coller la collaboration entre les trois éléments.
Ouais,
après, faire coller, ouais. C'est pas que sa tâche. Ça doit se faire des trois côtés. Mais,
En fait, j'aime bien les exemples et les analogies. Et donc, par exemple, tu vas dire, ouais, y a ce méga groupe de musique qui va faire un concert. Donc, ils arrivent dans la ville et tout. Et puis, ils arrivent. Donc, les camions sont arrivés. Ils sont plus ou moins reposés. Il y a tout qui se prépare sur la scène, il y a la balance qui est faite, il y a les rafraîchissements qu'il faut au moment où il faut, ils ont une loge qui est bien installée, tout marche. Pourquoi tout marche ? Parce qu'il y a un manager. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que sa compétence, c'est pas forcément « Ah, je sais exactement ce qu'il faut », comme l'expert technique, il sait exactement ce qui manque là, dans le code, et il va faire. Ou le métier qui lui te sort la vision, voilà ce qu'on sera dans 5 ans, voilà où on pourrait être avec la valeur, tu vois, qu'on va faire. Le manager, il est là, ça marche. Il a recruté des gens.
C'est presque tragique, j'allais dire, parce que son succès, c'est se fait dans son absence. Enfin,
Absolument. en fait, le truc, c'est. Alors, les gens vont dire, ah oui, c'est pas un manager, ça, c'est un leader. Mais je m'en fous, c'est la même chose en fait. La distinction leader-manager, à partir du moment où tu veux que ça marche, tu dois avoir du leadership. Tu ne vas pas simplement te dire je compte ce qu'on a dépensé et je vois si les gens n'ont pas envie de se tirer. Non. Et donc en fait, il y a ces trois voies pour moi, c'est ça qui est important. Et donc, pourquoi on parlait de ça ? Parce qu'on disait maintenance. Pour le dev, c'est pas forcément du point de vue de la pure technologie, quelque chose de super intéressant. Pour le métier, c'est une peine, c'est une plaie, c'est une mauvaise surprise déjà. Enfin, ça coûte, on pensait que c'était développé, donc c'était fini. Tu vois, la naïveté du truc. Tu as mis le système dans un autre système et ce système, il a un écosystème et cet écosystème le force à évoluer. Donc, c'est jamais fini. Et les devs, enfin les agilistes en tout cas, disent un développement n'est jamais fini, c'est jamais fini. Marianne Bellotti dit ça, elle dit c'est jamais fini.
C'est vrai que le mot système, quand même, par exemple dans la physique, ça évoque une certaine isolation. On aime croire que c'est isolé.
Mais
dans la physique, on a quand même tendance à dire qu'il y a aussi les conditions de frontière, boundary conditions. C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose qui va influencer la circulation de l'information à l'intérieur.
Ouais.
Et c'est ce que tu appelles l'écosystème.
Alors, en fait, pour moi, ma vision, je suis pas un expert en systémique et encore moins physique, loin de là, mais ma vision d'un système, c'est l'ensemble des choses que tu as envie de considérer dans ton modèle, quand tu veux fabriquer un modèle théorique de la réalité, que tu ne peux jamais appréhender qu'à travers un modèle, en fait, pour agir dessus. Donc, je pourrais te dire, y a des rues dans la ville et dans les campagnes, et puis il y a des véhicules qui se déplacent à une certaine vitesse, et dans mon système, il y a la topologie des rues et les limitations de vitesse, et puis... une petite loi très simple qui est reconnue, c'est que plus l'impact se fait à grande vitesse, plus l'accident est grave. Voilà. Donc mon système, il a 3-4 variables. Et ça suffit. Ça suffit pour prendre des décisions, pour décrire de façon utile une partie de la réalité et de prendre des décisions. Donc quand je dis le système, je dis le système informatique avec ces systèmes connexes, etc. Donc, tu pourrais dire, le système, c'est notre code. Ben non, c'est aussi tout le code open source que votre code utilise.
Qu'importe.
voilà, c'est aussi à minima le matériel, l'infrastructure. Et puis, on va grandir un peu. C'est l'équipe qui s'occupe de ça, qui le fait vivre. Et puis, cette équipe, elle est dans une entreprise qui est elle-même un système. Alors, on pourrait démultiplier à l'infini. À un moment, on va s'arrêter de démultiplier, puis on va observer, on va faire comme un peintre, on va cadrer le truc, ou un photographe, et on va dire, c'est ce système-là auquel on s'intéresse. Et donc, le métier, on lui a dit, fais ça, prends cette technologie, ça va être génial, tu vas voir, on va mettre notre service sur mobile, et on va être les rois du monde. Et il y a cru, et il a bien fait d'y croire, parce que c'est comme ça qu'il est encore vivant aujourd'hui, enfin, si tu fais pas de technologie...
Un modèle, ça doit être délimité, c'est-à-dire
ouais, c'est ça. C'est un système... Et lui, dans son système, il n'y avait pas... Il n'a pas tenu compte immédiatement. Alors, ça pourrait être naïvement qu'il n'a pas tenu compte. Évidemment, il est aussi mûr que les autres. Donc, il en a tenu compte, mais il a privilégié d'autres politiques, d'autres priorités dans sa politique. ou bien bah, il l'a vu, mais celui qui avait cette vision-là, il était remplacé par un autre gars qui faisait une petite bataille là, au sommet. Là, c'est difficile, c'est compétitif en fait. Et donc, il faut mener des politiques. Et donc, la vie est plus rude de ce point de vue-là, en tout cas, parce que la compensation est bien meilleure, mais la vie est plus rude de ce niveau-là qu'au niveau opérationnel, où tout le monde est à peu près copain, quoi. Pour faire un truc collectif, ça compte de bien s'entendre et de facilement trouver un consensus. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce qu'à un moment donné, y a une vision d'un système, puis on va dire, on va l'installer, ça marche, on fait de la valeur. Et puis, quand le technicien dit, ouais, mais il faudrait penser à la maintenance, on lui dit, attends, demain, il fera jour. On a le temps d'y penser. Et puis, il y a de l'inertie. Ce n'est pas tellement l'inertie des choses, c'est l'inertie aussi de nos décisions. Par exemple, j'avais un copain qui parlait de procrastination sur un système. C'est-à-dire qu'il fait une analogie entre la procrastination individuelle, enfin ce phénomène psychologique de la procrastination, et la procrastination dans l'entreprise à un moment où il faudrait faire l'investissement, on dit non, attends encore, etc. C'est cette magie-là, en fait, hein, quand les trois marchent ensemble, business et management, ça fait des miracles. Alors, les miracles qu'on voit aujourd'hui, c'est les GAFAM, mais c'est des miracles, c'est pas parce que c'est des formidables consensus, c'est des miracles parce qu'il y a plein de fric. Enfin, parce qu'ils ont trouvé des solutions prodigieusement intéressantes, ils ont eu la bonne idée au départ, quand même, il y a quand même ils sont sortis du lot par rapport à ça. Mais, regardez l'usage que fait la technologie, une société qui a un budget de R&D 5 fois comme l'ensemble de celui de ton entreprise, ou 10 fois, ou 20 fois, c'est un peu curieux comme démarche, si tu veux. Tu vois. Et là aussi, il y a un autre aspect qui m'intéresse, là, mais c'est plus une préférence personnelle, c'est la frugalité. Ouais. C'est-à-dire pourquoi je m'intéresse à maintenir l'existant ? Parce que je pense qu'on apprend... À chaque nouvelle révolution, mini-révolution technologique, on apprend à développer de nouvelles façons, ou on développe avec de nouvelles technologies, et on n'apprend pas à réparer du logiciel. Et ça se voit. Enfin, si tu as déjà été sur le code de tes clients, qu'est-ce que tu vois du code legacy ? C'est-à-dire du code, tu dis, mais il est indispensable. Alors, moi, chaque fois qu'on m'a dit, tu vas voir, cette application, c'est la vache à lait de l'entreprise, j'ai vu un code legacy. C'est imparable. C'est-à-dire que on sent que ce qui a été privilégié, c'est pas la belle ouvrage. Tu vois ce que je veux dire ? C'est d'abord le truc qui va faire le job. Et c'est intéressant. Parce que c'est un biais. C'est pas tout à fait un biais au sens d'un biais cognitif, mais c'est quand même une façon de percevoir l'objectif pour le métier et le management qui tord la réalité, qui dit il ne nous faut pas le langage parfait, le système ultra cohérent, le machin très bien techniquement. Il nous faut un truc qui fait le job. Ouais. Et c'est intéressant parce que Marianne Bellotti, elle fait remarquer ça. Elle dit c'est Al Gold qui a influencé plein de langages. Il a influencé le C et puis après le C, des tas de langages. Donc Al Gold, donc créé dans les années fin 50, est le grand-père du grand-père du grand-père d'un tas de langages qui comptent aujourd'hui dans la technosphère. Et en fait, est-ce qu'il reste des sites avec de l'Al Gold en production ? Non, il reste quelques sites avec du Fortran en production, mais il reste beaucoup de sites avec du COBOL en production. Et COBOL n'a pas influencé beaucoup de langages. Pourquoi ? Parce que COBOL, c'est une espèce de notation où on s'est dit, on va essayer de coder en anglais. ce qui est absurde, parce qu'en fait, c'est absurde. C'est pas totalement absurde, mais si on fait pas la différence entre une notation et un langage, comme un langage naturel, on a des problèmes rapidement. On a des problèmes rapidement de... Enfin, il y a une raison pour laquelle c'est des équations mathématiques qui formulent de la physique aujourd'hui, et pas des paragraphes écrits en français.
C'est qu'on a une grammaire assez stricte sur un langage de programmation, alors qu'un langage naturel, c'est un peu plus flexible. Quoi.
Et donc COBOL, qui a été écrit un peu comme... en fait, le but de... Le but du, j'ai rencontré dans ma carrière un trésorier d'une grande entreprise qui avait un manuel de COBOL dans ses étagères. Alors, quand je lui demandais, c'est bizarre, parce que tu t'occupes plus de trésorerie, de finances. Ouais, mais j'ai quand même le manuel de COBOL il y a 4 ans. quand on a pensé qu'à un moment donné, on pouvait coder nous-mêmes le système. Ah. C'est-à-dire, voilà, c'est, l'idée du COBOL, c'était de dire, bah, on met la programmation à portée de tous. Mais il y, a un aspect vachement intéressant dans COBOL, c'est que ça fait le job. Ça le fait mal. Bah, je sais pas, une fois, j'ai fait une revue de code avec des développeurs COBOL, sur du code COBOL, qui calculait la différence entre deux dates, le nombre de jours entre deux dates. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils s'y prenaient avec les dernières librairies, les derniers outils COBOL, mais ils faisaient 25 lignes de programme. Donc, ça fait le job, mais c'est disons que le modèle d'exécution du langage, enfin, les éléments du langage ne sont pas... ouais, on a essayé de les faire évoluer, mais ce n'est pas... Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que... Il y a un moment, des choix qui ont été faits en harmonie, métier, tech,
ouais. Ils ont coïncidé,
et management, ils ont coïncidé. Et donc, on a une solution, pas idéale, bien sûr, il n'y a pas d'idéal pour l'ingénieur, il y a juste un bon compromis entre les différents curseurs qu'on a positionnés à certaines valeurs, hein, comme dit l'autre. On peut te faire une voiture avec des pneus qui ne vont jamais crever, mais les pneus coûteront plus cher que la voiture. Enfin, tu vois, on rééquilibre. Et donc, il y a eu ça à un moment donné, ça a mûri en conception, pas trop longtemps, enfin, avec l'agile de moins en moins longtemps, ça a mûri en conception, ça a été porté grâce à des notations informatiques dans une machine, et ça tourne, et ça tient ses promesses, ça fait de la valeur, et ça tient diablement ses promesses, parce que, en fait, le digital, ça tire, enfin, je ne sais pas si je pourrais dire que ça tire l'économie, mais c'est quand même une sorte de valeur extraordinaire. Ouais. Et à un moment donné, on a négligé le fait, c'est pour ça qu'on a un legacy, on a négligé le fait que ce système allait vivre, donc que son écosystème allait vivre, et que la conception elle-même du système, le projet lui-même peut se perdre, en fait. Ouais. Donc, je sais pas, il y a un pilote fonctionnel qui a drivé le projet, qui a fait un travail génial pour mobiliser des équipes, sur un truc qui a de la valeur, et puis 3 ans plus tard, il change, il s'en va, et il passe pas le bâton, si tu veux, ou quelqu'un le remplace, mais il n'a pas du tout les mêmes... alors, peut-être qu'il n'a pas les mêmes priorités, ou même pas les mêmes prérogatives, et il fait autre chose. Il y a plein de façons d'investir un maximum sur du développement, et puis ensuite de le laisser... Il y a un économiste qui s'est intéressé au développement logiciel, et il connaissait bien le monde de la finance, et il disait c'est vachement intéressant parce qu'on investit des millions sur le développement, et ensuite il passe en maintenance, et là on... Ouais. Et en trading, c'est comme si on disait on investit pour obtenir des trades, et ensuite on ne les surveille pas, on ne les monite pas, on les laisse filer, perdre de leur valeur. Il y a ce phénomène-là en informatique. Ce qui est vieux vieillit très vite.
Encore une fois, si ça ne vient pas d'une conviction qu'on peut toujours être dans le nouveau. C'est-à-dire, c'est peut-être ça aussi qui motive qu'on crée du nouveau et on le laisse un peu se dépérir, entre guillemets,
ouais.
Parce qu'on croit qu'on peut toujours faire du nouveau et passer à autre chose. Et,
ouais,
est-ce que c'est ça peut-être ? Je sais pas.
Personnellement, je pense que c'est mortel de penser ça. Et surtout, il y a un problème de cohérence parce qu'on dit... On peut toujours créer du nouveau, mais s'il y a de l'argent pour le nouveau, pourquoi il n'y en a pas un petit peu plus pour ce qui vous cause des bugs en production, ce qui vous fait perdre... Parce que quand on dit, il y a du logiciel legacy qui est en train de se dessécher dans un ordinateur, si ce n'était pas un problème de valeur et de motivation, il y a deux aspects. Il y a la motivation des gens qui s'en occupent, ça peut être important. Enfin, eux, ils habitent dans ce système, donc ça peut être important qu'ils soient plus agréables à maintenir qu'actuellement. Et puis, il y a la valeur qui se perd. Pourquoi on s'occupe de maintenir des logiciels ou de s'occuper de la qualité ou de faire de la maintenance préventive ? Bah, parce que si on ne le fait pas, on a des ennuis, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a suffisamment de... Et c'est quelque chose que Marianne Bellotti décrit aussi. On a suffisamment de petits problèmes, de petits facteurs de risque pour aboutir à une catastrophe. Et une catastrophe, c'est jamais un seul bug, en fait. C'est un cumul de conditions. Et donc, déjà, on veut éviter ça, en fait.
En améliorant juste une partie de ces problèmes-là, on pourrait avoir des gains.
Ouais, alors c'est super difficile parce que... spéculer sur des gains avec l'informatique, c'est super compliqué parce que ce qu'on mesure, c'est extrêmement... c'est complexe, en fait. C'est compliqué. Et là encore, on peut faire des systèmes, donc on peut délimiter nos modèles et puis dire, bah voilà, on fait comme Accelerate, quoi, on va mesurer le temps de, voilà, le temps de remise en service, le nombre de pannes, enfin, etc. On peut prendre quelques métriques et s'y tenir. En général, ce n'est pas la tendance d'en avoir plein des feuilles Excel pour avoir, je ne sais pas, pour avoir l'air sérieux, pour prétendre à une certaine rationalité. Mais c'est difficile parce qu'il faut être, c'est exactement comme dans le développement, il faut être devin, en fait. C'est un métier de devin, c'est un métier, on dit, on parie que...
C'est vrai qu'il ne faut pas regarder dans le mot gain, en fait, c'est pas le rapport à la métrique ou à la mesure, c'est plutôt le fait que, je crois qu'elle donne d'ailleurs l'exemple, par exemple, si on veut améliorer la performance d'un système, on n'est pas obligé d'aller faire un peu, on va dire, la topographie de tous les aspects qui peuvent améliorer la performance. Ouais. On peut en connaître un qui sont principaux, les bosser, sans forcément... Kill it with fire, sans forcément tout désinguer.
Absolument,
Et ces petites modifications par-ci par-là, c'est des pourcentages gagnés. Déjà, sur la performance, ça peut avoir un apport. Et on est déjà à mi-chemin entre juste jeter le système et
Voilà. Et c'est intéressant. Et là, moi, j'ai reconnu un aspect de, effectivement, la maintenance et la modernisation des systèmes existants. C'est apprendre à être opportuniste, à faire son chemin pour le système, à donner une voie possible pour le système sans être... ce qui est rigolo, enfin, tu as dû remarquer ça chez les tout jeunes, les débutants, ils sont très entiers, tu vois. Et en fait, elle dit, Bellotti, elle dit, c'est un piège d'être cohérent, d'être trop cohérent. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, à partir de maintenant, il n'y aura plus une seule variable qui commence par...
Les platoniciens, c'est-à-dire le monde des idées.
On change tout, tu vois, parce qu'on peut le faire, parce qu'on a les outils, tu vois. Puis, on n'a pas les tests derrière, donc évidemment, on revient vite de ce truc-là. Mais j'ai souvent rencontré des gens qui sont très entiers dans leur démarche. Parce qu'ils ont besoin de la clean slate, c'est-à-dire ils ont besoin d'un tableau blanc propre, parce que ce sont des concepteurs. Sauf que le système qui est en prod, ce n'est pas le tableau blanc. Il n'est pas propre, ce système.
C'est un tableau déjà coloré.
En fait, le truc, c'est qu'il faut un certain temps qui est variable en fonction des individus qui sont dans ce métier pour réaliser que la belle conception qu'on a sur le papier... Et même sur le papier, elle n'est pas propre. Enfin, soyons platoniciens, elle n'est même pas propre sur le papier. C'est dans les têtes qu'elle est pure, qu'elle est belle. Et c'est là qu'elle nous plaît, c'est mathématiquement. En fait, dans la vraie vie, c'est plus un Tetris dont les éléments ne s'empilent pas, en fait. Ne s'emboîtent pas. C'est une pile. C'est une pile de trucs, notre technologie. Et ça peut être dramatique. En dehors du fait que financièrement, ça peut être une source de gâchis, écologiquement, ça peut être une source de détérioration, d'accélération de la détérioration de l'environnement. Il y a plein d'aspects sur l'existant qui me font dire c'est moche, c'est pas attirant, etc. Mais cherchons des raisons de mieux travailler ce truc-là et de le faire d'une manière qui soit vivante. Alors, quand je dis vivante, c'est au sens de Christopher Alexander. C'est-à-dire il dit une architecture, une maison, un pan de l'urbanisme de cette ville est vivant si, non pas qu'il bouge tout seul et qu'il se reproduit, mais s'il permet à la vie de s'établir, en fait. Donc, si du code pour moi est vivant, alors que j'ai dit que c'était inerte et que ça ne pouvait jamais pourrir, c'est vivant si ça permet à cette conversation à trois acteurs, management, métier et tech, de vivre. Oui. C'est-à-dire de... Est-ce qu'il y a de l'animation, en fait? Tu vois, c'est...
Vitalité, quoi.
Est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une vitalité autour de ça? Ou est-ce qu'il y a une conversation par an? La conversation se dit, bon, combien de semaines on met comme budget cette année? Qu'est-ce qu'on va faire, etc. Quoi.
Ouais. On a parlé de conversation. Si je voulais retenir quelque chose, juste un peu pour que ça rentre dans mon crâne. On a parlé de conversation, on a parlé, on va dire, d'une danse entre le business, la tech et le management.
Ouais, ouais.
On a parlé de revalorisation dans les projets IT du management.
Ouais.
Qu'est-ce que j'ai pas retenu, peut-être que j'ai
oublié. En fait, il y a ces aspects-là. Enfin, en fait, on regarde cette problématique, maintenir l'existant. Ce qu'il faut faire, une fois qu'on a un système, on a fait développer, ou on a développé un système, il faut le maintenir. Il n'y aura pas de système qui vivra sans la maintenance associée. On le sait pour tous nos systèmes. On le sait pour nos ponts, pour nos trains, pour nos avions, pour nos systèmes informatiques, c'est pareil. Et cette logique de remplacement, de refonte, je pense qu'elle va faire long feu. Un jour, je me dis, ça va s'arrêter, on va pas être sur une manne sans arrêt comme ça. Et à un moment, on va devoir apprendre à réparer du logiciel. Tu vois, j'ai eu la chance de partir en expédition avec une équipe Octo au Maroc, dans le désert sud-marocain. Et évidemment, on a pété un moyeu sur un trou sur la route, tu vois. Et on est allé dans un petit village, petite bourgade. Et ça a pris une grande partie de la soirée, mais il y a un garagiste qui a réparé le moyeu, tu vois.
Ouais.
En France, tu aurais dit, bon, il faut trouver le concessionnaire Toyota, c'est fini, etc. Donc, tu dis, mais en fait, en fonction de la façon dont on voit la vie, les ressources, le développement des choses, ce qu'on investit, comment on investit dans ce qu'on fait, ben, on a une attitude différente. Et par rapport au code, je me dis, apprenons à réparer du code. Et il y a des tas de gens qui adorent ça, hein, le refacto, c'est des sujets aussi de nitpicking, etc. Mais les patterns, comment améliorer l'état d'un code, il y a des tas de gens qui sont devenus, par rapport à ça, si je fais une différence entre le début de ma carrière et les conversations que j'avais avec les gens, et aujourd'hui, les gens sont devenus des orfèvres, tu vois, des artisans du logiciel. Je pense qu'on n'a aucun aspect de l'artisanat, en fait, non, c'est pas un artisanat, en vrai, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de compagnonnage, donc c'est pas un artisanat. Mais on est devenu des orfèvres du code. C'est même ce que reproche le métier. Hein. Ça, c'est la fameuse phrase du PO. Vous ne faites pas de refactoring pendant ce sprint, s'il vous plaît. Vous vous ferez plaisir après la mise en production.
Ouais, comme si on pouvait s'en dispenser.
On peut pas s'en dispenser, mais on a un plaisir à le faire, évidemment. Ouais. Donc là il y a de la part de ce PO, il y a peut-être une relation au plaisir dans le travail qui était problématique. Comme quoi, on touche à plein d'aspects, y compris psychanalytique, peut-être, ouais. Je ne sais pas. Mais ça paraît impensable aujourd'hui, depuis 30 ans en tout cas, pour moi, de dire qu'il n'y aura pas de fun dans le développement informatique et qu'il ne devrait pas y en avoir. Quelquefois, et c'est peut-être un côté trop léger justement, c'est que ça. Voilà, et donc maintenir l'existence, se dire, tiens, si je faisais une mission où je maintiens de l'existence, et j'ai déjà aidé des gens à prendre leurs décisions sur des postes où il fallait maintenir l'existence, et ils n'y allaient pas. Ils étaient comme le chien avec les épinards, tu vois. Non, je ne veux pas faire cette mission, quoi, tu vois.
Okay. Ouais.
Et en fait, ils y ont trouvé un intérêt, et ensuite, 6 mois plus tard, j'ai dit comment ça va, mais c'est fascinant, c'est vachement intéressant. Alors, fascinant peut-être pas, mais ouais, c'est intéressant, il y a plein de trucs.
Mais ça commence quand même par une décision d'aller porter un peu plus d'énergie, d'attention là-dessus.
Ouais.
Et une fois ça, ce catalyseur est déclenché, on commence maintenant à apprendre à vivre avec.
Ouais. C'est-à-dire effectivement à dire, tiens, j'ai ajouté, alors tu sais, c'est le mantra du manifeste Kraft, produire de la valeur, tu vois. Alors moi, ça fait sourire, la création de la valeur, parce que quand j'interroge des cadres du métier, ils ont déjà du mal à définir la valeur hypothétique du développement qu'ils font. Mais nous, on est tous derrière nos claviers à produire de la valeur. Ok, je sais pas, en fait, c'est difficile, il faut la big picture pour connaître la valeur. Mais en tout cas, c'est certain que si tu craftes du logiciel, comme on dit, tu viens d'améliorer la ligne de code, et quelqu'un, peut-être pas en direct parce que tu ne seras plus là, mais dans son cœur, il va te remercier pour ça. Il va dire, ah ouais, c'est bien foutu, et ouais, c'est bien nommé, j'y vois clair. C'est pas Toto, quoi. Tu vois, c'est pas n'importe quoi, c'est pas une procédure qui fait 3000 lignes et qui fait tout et indécrottable. Ouais. Et donc, des gens ont entretenu ce qui était là. Ouais. Et c'est ça, là. En fait, pour moi, maintenir l'existant, c'est tu passes ici, tu entretiens ce qui est là. Tu t'en occupes. Et pour qu'un système soit vivant, on s'en occupe. Si tu as des humains là qui sont dans le système et qui s'en occupent, il est vivant. S'il n'est pas vivant, bah c'est une purge, c'est une plaie, c'est pas drôle. Et puis on y colle les débutants, on leur fait la blague, tu vois, c'est leur bisou d'âge. Ils vont sur le machin. Et puis voilà quoi, c'est pas le métier tel qu'on a envie de le faire. Et je sais que ça suffit pas à motiver parce que il faut rentrer dans un vieux système, tu vois, PHP d'il y a 15 ans ou même COBOL ou enfin tu vois c'est pas évident quoi, tu vois. Mais en tout cas, je pense qu'on a ce que j'aimerais voir arriver, c'est un souhait fumeux, c'est pas un projet, c'est voir l'intérêt se déplacer un peu. J'adore l'innovation, hein. Moi aussi j'ai des bidules, j'adore, j'aime bien jouer avec des nouveaux trucs et des nouveaux langages aussi. À un moment, j'apprenais un langage par an, j'adorais ça. Se déplacer l'intérêt vers l'art de maintenir un système vivant plutôt que de le remplacer systématiquement par une espèce de destruction créatrice qui ressemble vaguement à une stratégie un peu enfin très dispendieuse quoi, tu vois.
C'est pas forcément ça, peut-être échapper en avant.
non, c'est pas forcément une fuite en avant. Non, ouais, c'est pas ça, mais je caricature, mais j'ai vu quand même beaucoup de systèmes, tu vois, enfin y compris des managers j'ai vu des managers métiers en discussion avec leur alter ego côté tech qui disait ouais, ok, je sais que vous voulez apporter cette technologie, mais j'arrive pas à la défendre auprès de mes utilisateurs. Ouais. Quoi. Ouais. Ou tu sais, des utilisateurs qui disent oui, ben on a un ancien système mainframe là, enfin l'émulation du. On a un post Windows qui a un terminal mainframe. Et en fait, c'est vachement pratique parce qu'il n'y a pas de souris, pas de menu, ça va très vite. Ouais. Tu dis, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a mis les outils fenêtrés? Il y a un type d'application pour lequel ça marche super bien et d'autres... Et on n'est pas subtil là-dessus, je trouve. Ouais. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit plus subtil sur... Il y a une finesse dans le fait de maintenir l'existant d'une certaine manière et qu'il n'y ait pas forcément, ça y est, remettons plein d'argent à des causes perdues. Parce que c'est un peu ça, en fait. Hein. Moi, j'ai souvent vécu comme ça. Hein. C'est la cause perdue, quoi. Tu vois.
Ouais. Je pense que ça serait très difficile d'essayer de résumer l'affaire mieux que tu ne viennes de le faire.
Je ne sais pas si je l'ai résumé, parce que mais ça fait quand même un bout de temps qu'on parle.
Je pense que je vais garder dans ma tête, essayer de conserver à la maintenance, à l'existant, sa vitalité.
C'est, ouais, c'est un peu ça que je vais... C'est un impératif qui m'intéresse. Enfin, c'est une proposition qui
Et puis
qui
derrière, il n'y a pas forcément des recettes, mais on va dire que ça va être cas par cas, etc. Mais une fois cette attention portée, cette conviction que la vitalité existe là, les choses vont se débloquer et s'améliorer.
Tout à fait. Et il y a maintenant, je sais pas, trois quarts d'heure, une demi-heure, tu as dit, il va y avoir des aspects sociologiques, des aspects archéologiques et aussi du détachement. Et je pense que tu as touché du doigt les aspects qu'il faut développer, cultiver là-dedans. C'est pas, tu sais, les gens qui disent, ouais, non, mais ça, c'est purement technique. Moi, je m'intéresse à la technique pure. Mais la technique pure n'existe pas. La technique pure, c'est pas fertile.
Eh bien, c'est à cogiter.
Trois points de suspension.
Dans ma tête, il se passe plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de matière à cogiter. On va essayer quand même de partir sur des questions un peu plus légères.
Et un peu plus concrètes, peut-être, non?
Et laisser peut-être... le soin à nos auditeurs d'explorer toutes ces idées, propositions que tu nous as faites. J'appelle cette partie Quick and Fun. Ça va être des questions assez rapides. Tu peux répondre par un mot, tu pourrais répondre par un paragraphe. Okay. C'est comme tu veux. Alors, tu es un développeur aussi. Tu m'as fait découvrir du Lisp à la conférence Socrate, je m'en rappelle.
Oui. Ah oui, le fameux conteneur mystère, c'est ça?
Le conteneur mystère, mystery container, yes.
Oui.
Alors, la question n'a pas forcément attrait à ça, c'est plutôt, est-ce que tu as un tic inconscient que tu fais quand tu développes?
Alors oui, à chaque fois que je veux écrire le mot initialisation, je fais une erreur. Et à chaque fois que je fais une boucle for classique à la C, j'oublie la partie incrémentation.
Okay.
Donc je ne les ai pas cataloguées scientifiquement, mais je connais un peu mes erreurs. Et il y a des choses que j'ai tendance à faire. Et alors, un tic, alors c'est plus qu'un tic, c'est même un complexe. Quand j'ai un bug, je ne le sais pas, évidemment, hein, c'est la condition d'un bug, tu as inséré un défaut dans le système, tu ne le sais pas. Si tu le savais, l'industrie serait très différente. Donc, je ne le sais pas. Et en général, les réponses que je fais à ce problème, mon test ne passe pas, ou bien je n'ai pas assez de tests. Et là, je m'entête, en fait. Je m'entête sur une petite dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'en général, c'est la façon dont je fais des erreurs, c'est qu'il y a trois erreurs qui se mettent sur le chemin et qui se coordonnent ensemble, qui conspirent ensemble pour me laisser dans une situation qui peut durer jusqu'à une journée.
Okay.
Et souvent, je fais le débrief de mon débugage. Donc, la dernière fois, c'était sur un code Haskell que j'essayais de faire comprendre du texte qui était en UTF-8, qui contenait des accents français.
Okay.
Et ce que je ne voyais pas, c'est que mes tests contenaient des exemples de caractères accentués français et qui passaient avec un certain encodage. Mais ma lecture de fichier, le programme en Haskell que j'écrivais, qui lisait un fichier, ne comprenait pas cet encodage. Ah. Je suis allé, donc j'utilisais une librairie du CSV, je ne sais plus comment elle s'appelle, Haskell. Je suis allé jusqu'à tirer la librairie, la recompiler, ajouter des tests unitaires à cette librairie, parce que j'étais persuadé que la librairie ne marchait pas. Donc il m'a fallu à peu près une journée en délai pour comprendre que... c'est l'encodage du compilateur Haskell qui posait problème.
Non, mais c'est pas évident.
C'est un truc que j'ai trouvé sur Stack Overflow à partir du moment où j'ai décidé de m'y intéresser en 5 minutes.
Ouais.
Non, je dois faire justice à quelqu'un qui est venu m'aider sur Slack et qui m'a dit « Regarde, mais je crois que c'est l'encoding du source. Donc tes tests, ils ont des chaînes en dur. » Ouais, c'est pas la même chose que quand tu lis le fichier. Donc pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, là, il y a une erreur que je fais moi très souvent. C'est de faire une erreur et au lieu de me poser, de regarder, d'allumer toutes mes lampes de poche, de commencer à regarder, à ouvrir mes chakras, à ouvrir mes écoutilles ou mes mirettes, je persiste dans un scénario et je vais dans ce scénario à fond, quoi.
Tu épuises le scénario et puis derrière...
Là, on est perdu dans les bois et c'est par là. Et on continue 5 km sans rien, quoi. Donc ça, c'est un tic que j'ai. C'est pour ça que j'ai besoin de binôme ou d'une équipe. C'est que je ne sais pas bien débugger.
C'est vrai que ce genre de tic-là, c'est évitable. Enfin, c'est plus évitable en tout cas lorsque on est en pair ou en mob, en ensemble programming.
Ouais, tout à fait. Ouais.
C'est un bon barrage à ce genre de...
Et on gagne un temps fou, en fait.
Ouais.
C'est la valeur du travail en équipe.
Absolument. On a mentionné la conférence Socrate.
Oui. Ouais.
T'as eu l'heure ?
Non, what about it ? Donc j'ai eu la chance et le privilège et l'honneur de faciliter le Socrates Rennes. Alors des open space, j'en fais depuis un certain temps. Et je trouve ça fascinant, en fait, ce qui se passe dans un open space. Enfin, c'est ce que dit Owen. Enfin, il dit, en fait, ce qui se passe autour des sessions de la conférence est plus intéressant que les sessions. Donc, on va pas programmer les sessions à l'avance. Comme ça, on laissera plus de chance à l'aléatoire, en fait, de se produire. Et donc, moi, j'aime bien ça. Je me suis jamais ennuyé à une non-conférence. Alors, je me suis ennuyé à des tas de conférences. J'ai toujours mieux géré mon énergie dans ce type d'événement. Parce que t'es fatigué, tu peux te lever et puis aller te reposer. Sans te dire, bon sang, comment ça va passer si je fais ça ? Et déjà, ça, c'est déjà énorme. Et évidemment, après, c'est juste un aspect, parce que c'est générique. C'est que le fait qu'il n'y ait pas de programme... enrichit le programme énormément, c'est-à-dire que les gens arrivent avec ce dont ils ont envie de parler, puisque c'est la règle. Et donc, tu découvres les gens, en fait. C'est-à-dire que ma vision caricaturale d'une conférence, c'est que les gens vont au talk, vont au keynote, écoutent, etc., s'intéressent. Et puis à un moment, on sert des boissons alcoolisées, et là, les conversations commencent, et on s'éclate, etc. Alors ça part vite, c'est la fin de la conférence, et la soirée, c'est pas très intéressant. Et ma vision de la non-conférence, c'est les gens arrivent avec des sujets qui sont en plein dans ce que tu venais, ce que tu attendais, complètement à côté, mais c'est incroyable, tu découvres des trucs. Et en fait, tu vas t'exposer à de l'apprentissage et à de la découverte, mais pas seulement de l'apprentissage de choses, mais aussi de faire connaissance avec les gens, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont dans leur vie, quoi, chez eux. Pas ce qu'ils sont venus paraître, en fait. Mmh. Et donc, il y a des chances pour qu'il y ait des relations beaucoup plus intéressantes. Je dirais pas qu'elles sont plus authentiques, enfin, on va pas jouer à ça, mais elles sont intéressantes dans la mesure où tu découvres des choses que les gens ont dans leur vie. Tu vois, je sais pas, imagine quelqu'un qui sait jouer du ukulélé et il fait une session sur le ukulélé et tu découvres cet instrument et tu dis « Ah, mais il est facile à apprendre » et paf, ça, tu te découvres. Tu vois, un talent que tu ne connaissais pas pour la musique. Tu vois, mais on peut tout imaginer, en fait. Et quand tu fais la liste de tout ce qui a été abordé dans la conférence, tu dis « Mais c'est un truc incroyable, quoi. »
Oui, j'ai eu droit à une séance karaoké après une séance... TDD, CR, avec... j'ai pas chanté par contre, ouais, j'étais ouais. Là en train de...
Ouais, non, pour moi c'est passionnant et je fais le plein dans des non-conférences, je fais le plein de pistes intéressantes, quoi. Il y a plein de choses que je considère comme des idées en disant, bah voilà, je les ai mâchouillées 2-3 ans et puis j'arrive à construire. Enfin, disons, la façon dont je construis les idées, c'est que je les utilise dans mes missions pour voir si on arrive à produire des changements avec ces modèles-là. Et je les ai eus soit par influence dans une non-conférence, soit en essayant, de les shooter, c'est-à-dire de les proposer à des gens pour qu'ils les attaquent et qu'ils disent ouais. « Ah non, ton idée, elle ne marche pas parce que. » Et donc, non, c'est fascinant, quoi.
En tout cas, oui. Je pense qu'il faut y aller au moins une fois. Pour moi, c'était quelque chose de marquant, sincèrement, mm-hmm. pour avoir fait des conférences. C'est j'ai jamais eu autant plaisir. et c'est ça, c'est que on apprend à connaître les gens et puis plein de sujets techniques aussi intéressants, mais c'est très marquant pour moi et je pense que ça va l'être pour tout le monde qui va essayer et qui va
ah ouais, ouais ouais moi je pense que c'est
un moment,
c'est l'avenir de la conférence.
J'espère. Ok, ton film préféré?
Oh, mon film préféré. Ah, alors il y a un film qui est magique pour moi, c'est La Dolce Vita de Fellini,
okay.
qui est un film que je trouve fascinant parce que c'est un film un peu désespéré, romanesque, moral, philosophique. C'est un film que je trouve fascinant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Blow Up d'Antonioni aussi.
Okay.
Pas pour les mêmes raisons, c'est pour son esthétique et son côté totalement plastique, je dirais. Parce que le personnage de Blow Up, il est insupportable. Mais le mystère qui entoure, c'est un mélange, c'est très esthétique. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Déjeuner chez Tiffany. C'est le film qui me fait pleurer à la fin. Ce qui est pas, c'est pas la vraie fin qu'avait écrit Truman Capote, d'ailleurs. C'est la fin hollywoodienne de cette histoire. C'est des goûts de boomer. Hein. tous ces films datent d'avant 70, entre parenthèses.
Je dirais pas ça, mais quand même, ça me fait découvrir des choses. C'est vrai que... Mon choix n'est pas peut-être moins boomer entre guillemets. C'est La Dernière Tentation du Christ de Scorsese qui est aussi
oui,
une
oui,
recherche
oui.
En, entre guillemets.
Ouais, ouais.
Ok, c'est à découvrir. Alors, la petite dernière,
okay.
La plus facile, un conseil à donner à des développeurs débutants.
Ouh, oh là là, j'en aurais tellement. Essaye d'écrire des tests automatisés.
Okay.
Tu vas voir, c'est rigolo. Si tu arrives à le prendre comme un jeu, ça va vraiment te servir.
Ok.
Du code auto-vérifiant, ça peut être comme un jeu. Si ça t'ennuie, c'est... Enfin, il y a un truc qui va pas. Normalement, ça devrait être fun. Je pense que ça devrait être fun. Et ça va vraiment, vraiment être une super aide, quoi. Là-dessus,
okay.
je pense que ça, moi, ça fait un... Enfin, il y a un avant, un après. J'ai découvert TDD, les tests automatisés, dans les années 99-2000. Et avant, je faisais des tests avec des fichiers, etc., des tests un peu systématiques, plutôt end-to-end, et beaucoup, beaucoup de debug. C'est-à-dire, je passais mon code de debugger systématiquement, ce qui est un processus très, très long, puisque au debugger, tu mets juste 60 millions de fois plus lentement que l'ordinateur pour faire une insertion, en fait. Hein.
Close enough. Yeah.
les tests automatisés, pour moi, je les ai découverts comme un jeu. Et là, ça a vraiment changé. Ça a changé ma carrière. Et en fait, tu as toujours des problèmes, bien sûr, et des bugs, mais ils sont vachement plus intéressants que les bugs que tu as quand t'as trop peu de tests. Donc, mon premier conseil, et je l'ai déjà appliqué parce que j'ai déjà eu des gens qui étaient en alternance ou qui démarraient vraiment dans le métier et ils venaient travailler dans le projet, c'était leur première mission. Le premier truc, je disais, voilà, moi je peux t'apprendre à écrire des tests automatisés, ça va t'aider. Et ils disaient, ouais, vas-y. Et j'ai vu la différence, en fait, de progression. Donc je pense que si j'avais un seul conseil à donner, c'est regarde les tests auto. Ça...
Ok.
Reste pas trop longtemps sans faire des tests auto.
Alright. Christophe, toutes les bonnes choses prennent forme.
Ouais.
On a fait un petit moment là de conversation.
Je sais pas, moi je suis extrêmement bavard, donc va falloir trier tout ça, peut-être, je sais pas, le structurer.
Pas mal de cogitation.
Ouais.
C'était un plaisir de t'avoir.
Merci, c'était un plaisir de parler avec toi.
Et
super conversation, j'espère que ça sera renouvelé.
J'espère bien.
Sur un autre thème, pourquoi pas. Ou sur un approfondissement de celui-là.
Il y en a. Merci beaucoup et puis bonne soirée du coup.
Merci à toi, bonne soirée également.
Et c'était Christophe Thibault en conversation avec Faisal et c'était Because. Au revoir.
Au revoir.
Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.